Vous écoutez On lit pour vous.
Quand les adultes renouent avec les jeux de leur enfance, un texte d'Annabelle Caillou, paru le 20 décembre 2025, dans Le Devoir. Qui a dit qu'on ne pouvait plus jouer une fois dans la cour des grands? Nombre d'adultes renouent avec leurs souvenirs d'enfance ces dernières années. Lego, figurines, cartes Pokémon et Playmobil trouvent désormais une place de choix sous leur sapin de Noël et dans leur quotidien. Un coup de chance pour les boutiques de jouets qui agrandissent leur section 18 ans et plus pour séduire ces grands nostalgiques. À l'âge adulte, plus personne ne t'offre de Lego pour Noël. T'es grand, t'es censé passer à autre chose. Mais moi, ça ne m'a jamais quitté. Alors j'ai décidé de m'en offrir à moi-même, explique Marc-Olivier Gingras. Chaque 25 décembre, ce trentenaire replonge dans la magie de Noël en s'offrant un nouvel ensemble Lego. Après des constructions tirées de l'univers de Star Wars, c'est un Lego représentant la console de jeu Game Boy de son enfance qui l'attend cette année sous le sapin. C'est quand même onéreux. C'est minimum une centaine de dollars à chaque fois. Mais j'économise à chaque paix dans un compte d'épargne Lego, même si souvent je l'utilise comme fonds d'urgence quand quelque chose brise dans la maison, lance-t-il en riant. Du plus loin qu'il se souvienne, Marc-Olivier Gingras a toujours aimé assembler les fameuses petites briques colorées. Petit, je secouais mes cadeaux de Noël pour voir si c'était bien un Lego, se remémore-t-il. Discret sur cette passion, lors de son passage à l'âge adulte, il l'affiche aujourd'hui fièrement sur ses réseaux sociaux, célébrant chacune de ses nouvelles constructions. Au-delà de la nostalgie qui l'habite, ce qu'il chérit surtout, c'est le moment de détente que lui procurent les Lego. Quand tu fais un Lego, le temps s'arrête un peu. Tu t'assois avec une tisane, tu ouvres la boîte et tu te concentres uniquement sur ça. C'est un moment très zen pour moi. Il décrit son passe-temps comme un refuge loin des écrans et du tourbillon du quotidien rythmé par son travail, le trafic et son nouveau rôle de père. Un plaisir à partager. À l'inverse, Anthony Vandramme joue rarement seul au Lego. Depuis son plus jeune âge, il préfère partager ce moment avec son frère, de 18 mois son aîné. Tous nos Legos sont chez lui. Dès qu'on se voit, on avance nos projets ensemble. C'est important pour moi de continuer de partager ça avec lui. À chaque fois, ça nous replonge dans nos souvenirs d'enfance, confie celui qui est derrière la marque de vêtements Poche et Fils. Jouer au Lego est même devenu une tradition de Noël dans sa famille. Chaque année, notre père achète un nouveau Lego et on le monte ensemble le soir de Noël, raconte-t-il. J'ai un fils d'un an maintenant et j'espère qu'il fera partie de la tradition. Au-delà de l'aspect rassembleur, Anthony Vandramme souligne la créativité que permet le jeu. Après avoir terminé plusieurs constructions de l'univers de Star Wars, les deux frères se lancent désormais dans leur propre modèle Lego. Depuis 4 ans, ils peaufinent une maison de mercenaires inspirée d'un film de leur enfance. Une passion sans limite d'âge. Pour Elsie Kreuser, adepte des cartes Pokémon, le nouvel essor que connaissent certains de ces jeux d'enfance s'explique en partie par l'intérêt de nombreux collectionneurs déterminés à mettre la main sur des éditions spéciales, des cartes ou des figurines rares. Reste que pour lui, c'est le jeu en soi qui l'anime depuis ses 8 ans. J'aime sa complexité, sa logique. Il y a toujours de la nouveauté, de nouvelles cartes ou des personnages Pokémon. Les stratégies sont toujours à réinventer, explique le joueur de 31 ans. Sa passion dépasse d'ailleurs le simple loisir. Elsie Kreuser participe chaque semaine à des compétitions locales de cartes Pokémon et a récemment pris part à des tournois régionaux et internationaux à Las Vegas et à Sao Paulo. Depuis 6 mois, il en a même fait son métier, coachant à temps plein d'autres joueurs qui cherchent à améliorer leur stratégie. La COVID a été un déclencheur, croit-il. Les gens étaient chez eux. Ils avaient le temps et le besoin de renouer avec leur passion. Beaucoup ont retrouvé leur cœur d'enfant. Le marché du jouet en plein essor. Cette tendance n'a pas échappé aux magasins de jouets indépendants. Depuis la COVID-19, il y a un vrai changement d'état d'esprit, confirme Benoît Doyon, fondateur des boutiques imaginaires. On voit beaucoup plus d'adultes qui magasinent ouvertement des jouets pour eux. Ils ne s'en cachent plus. Ils demandent des conseils. Ils parlent de leurs expériences, leurs goûts. C'est devenu in. Le phénomène stimule les ventes. C'est sûr que ça aide. Non seulement on vend davantage, mais les produits 18 ans et plus sont souvent les plus coûteux, renchérit Karine Germain, gérante de la succursale Trifluvienne de l'Entrejeu. Prenez les Lego. La marque surfe sur la nostalgie des adultes avec des collections spéciales Star Wars, Harry Potter, Home Alone ou Titanic qui ont plus de pièces et un prix plus élevé. Face à cette demande croissante et à l'offre qui suit déjà, les enseignes s'adaptent et agrandissent donc leurs rayons destinés aux adultes. Selon Andrew Wagar, président du conseil d'administration de l'Association canadienne du jouet, les ventes de jouets au Canada ont augmenté de 17% entre 2024 et 2025, une croissance qui lie directement au regain d'intérêt des adultes pour leurs jeux d'enfance. Il ne s'en étonne pas outre mesure. Les jouets permettent aux gens de retrouver la simplicité et le réconfort de l'enfance. Ils apportent de la joie et un esprit ludique dans un monde adulte souvent exigeant, souligne-t-il. Sans parler des peluches, tout aussi populaires auprès du public adulte, qui offrent, pour leur part, un réconfort émotionnel et un sentiment d'ancrage. C'était « Quand les adultes renouent avec les jeux de leur enfance », un texte d'Annabelle Caillou, paru le 20 décembre 2025 dans Le Devoir.
Un regard admiratif de l'extérieur sur les différentes façons d'aimer le français au Québec. Un texte de Julia Bosworth, publié le 15 décembre 2025 dans Le Devoir. Aimer le français. Être amoureux de la langue française. Professeur de français et sociolinguiste spécialisé dans les discours sur la langue et l'identité au Québec, je ne cesse de m'émerveiller des déclarations d'amour que les Québécois de tout acabit, qu'ils soient personnalités publiques ou citoyens ordinaires, adressent à leur langue. En tant qu'Américaine, l'idée d'entendre quelqu'un dire qu'il aime la langue anglaise me paraît presque inconcevable. ce sentiment ne trouvant pas facilement écho au sud de la frontière, ni chez les anglophones en général. Cependant, en tant que chercheuse immergée dans la culture et la langue québécoise tout au long de ma carrière universitaire, les mots qui expriment l'amour de la langue française sont des mots qui sonnent et qui résonnent en moi. Cette question m'a particulièrement interpellé lorsque j'ai eu l'occasion d'entendre Bianca Richard lors d'une représentation de la docu-fiction théâtrale « Parler mal » au printemps dernier, s'interroger sur le sujet. Avec son co-créateur, Gabriel Robichaud, elle pose la question. « Vous me demandez d'être fier de ma langue, mais ça veut dire quoi, aimer le français? Ça arrive juste comme ça, par magie? » Ces deux artistes francophones acadiens, fiers et engagés, incarnent un amour de la langue française qui valorise la variété qui leur est propre, en mettant en lumière ce qui est parfois difficile à aborder, comme l'insécurité linguistique. Aimer n'est pas toujours facile. Que veut donc dire, au juste, aimer le français au Québec où l'attachement à la langue française et l'affirmation identitaire collective sont étroitement liés? Pour certains, c'est le fait de la protéger par le biais de politiques linguistiques et d'en favoriser l'usage dans sa vie quotidienne. Pour d'autres, c'est le fait de bien la parler et parfois de corriger les fautes de leurs interlocuteurs, à tort ou à travers. Pour d'autres encore, c'est l'engagement, un concept proposé par Lise Gauvin pour saisir l'engagement particulier de l'écrivain québécois envers la langue. Dans le cadre d'un projet de recherche, j'ai récemment eu le privilège d'interviewer deux personnalités du milieu culturel québécois qui exercent leur engagement d'une manière digne d'être soulignée. Clairvy Tiempon, comédienne et créatrice de théâtre, signe et interprète « Détourner sa langue », un spectacle-conférence dans lequel l'actrice-créatrice confie à son public attentif, à travers une réflexion humoristique et avec une franchise à la fois perçante et émouvante, ses questionnements, réflexions et révélations face aux pratiques langagières et idées reçues concernant la langue française au Québec, tant dans le milieu théâtral qu'à l'échelle de la société. Son œuvre s'inspire de son propre parcours, qui inclut notamment une maîtrise en théâtre où elle examine les enjeux sociolinguistiques liés à la langue théâtrale et remet en question la primauté du français dit « international ». Lors des représentations, Tiempon parvient à créer une communion avec son public autour d'enjeux partagés tels que le questionnement de la légitimité de la langue française au Québec et l'affranchissement des complexes qui y sont associés, offrant à une occasion une discussion plus approfondie avec le public, co-animée par une doctorante en sociolinguistique à l'issue de la représentation. Pour Clairvy Tiempon, aimer le français consisterait donc à se servir de son métier et de sa formation en études supérieures pour mettre en avant le français en usage au Québec, tant comme outil que comme objet. L'auteur-compositeur-interprète Jérôme Cinquante, dont les textes révèlent une ingéniosité linguistique subtile entre sonorité et transformation morphologique, est également connu comme artiste linguiste à la suite de la parution, l'année dernière, de son dictionnaire du Chiller. Ce premier ouvrage à décrire le langage oral des jeunes offre au public une richesse de données et d'observations recensées de manière minutieuse. Quelles que soient les attitudes envers la langue des jeunes ou sa démarche de lexicographe, l'artiste linguiste a passé plusieurs années à recueillir ces données qui n'auraient pas été facilement accessibles aux linguistes en raison des protocoles de recherche contraignants. Au-delà de sa création artistique, plusieurs de ses engagements publics portent sur ce travail. Pour Jérôme Cinquante, aimer le français consisterait ainsi à en examiner et en vulgariser une certaine variété, souvent dévalorisée, en s'appuyant sur sa formation en linguistique et ses propres pratiques et observations, tout en invitant le public à s'y intéresser et à en reconnaître l'apport à la culture québécoise. tous deux, par une démarche qui conjugue création artistique et formation universitaire, cherchent à valoriser la langue française au Québec. Parmi autant de façons d'aimer le français, c'en est une qui se révèle innovante et rassembleuse, encourageant une réflexion collective sur la langue. Aimer le français au Québec, cela doit être aussi ça. C'était un regard admiratif de l'extérieur sur les différentes façons d'aimer le français au Québec, un texte de Julia Bosworth, publié le 15 décembre 2025 dans Le Devoir.
Les galaxies de l'univers primitif, de véritables usines à étoiles, un texte de Pauline Gravel, paru le 22 novembre 2025 dans Le Devoir. Une équipe internationale d'astronomes a déterminé la température d'une galaxie très brillante dont la lumière a été émise il y a 13,2 milliards d'années. Cette information leur a indiqué que les premières galaxies de l'univers primitif évoluaient à la vitesse grand V et qu'elles formaient des étoiles à un rythme effréné, soit 180 fois plus rapidement que notre galaxie, la Voie lactée. Lors d'une étude précédente, cette galaxie, dénommée Gamma 1, avait été repérée par ces nuages de poussière extrêmement brillants, ce qui en faisait la galaxie la plus éloignée à être détectée directement par la lumière émise par son abondante poussière cosmique, qui avait voyagé pendant 13,2 milliards d'années avant de nous atteindre. En d'autres termes, cette lumière nous donnait une image de la galaxie telle qu'elle était il y a 13,2 milliards d'années, soit seulement 600 millions d'années après le Big Bang. Comme les chercheurs trouvaient étrange qu'une galaxie aussi jeune renferme autant de poussière, ils se sont appliqués à mesurer sa température, car ils soupçonnaient que les conditions qui prévalaient au sein de cette galaxie, datant de l'univers primitif, étaient très différentes de celles observées dans l'univers plus récent. Pour ce faire, ils ont fait appel dans les Andes chiliennes au télescope ALMA, Atacama Large Millimeter Submillimeter Array, qui se compose de 66 antennes captant le rayonnement émis par les toutes premières galaxies. Ce rayonnement leur a permis d'apprendre que les poussières de Gamma 1 atteignaient une température de 90 Kelvin, soit environ moins 180 degrés Celsius, à savoir beaucoup plus élevée que celle des autres galaxies observées jusqu'à maintenant. Une manière de déterminer si une galaxie produit beaucoup d'étoiles consiste à mesurer sa température et sa luminosité. Compte tenu des données obtenues pour Gamma 1, on pourrait la qualifier d'usine à étoiles ou de pouponnière d'étoiles, résume Nathalie Nguyen Kwok-Wellet, astrophysicienne à l'Université de Montréal. Cette étude nous met sur une piste pour résoudre une problématique que les premières observations effectuées par le télescope spatial James Webb, JWST, ont soulevé. Le JWST nous a permis de voir de très jeunes galaxies très tôt dans l'univers. Or, ces dernières nous sont apparues plus grosses, plus massives et structurées, voire plus évoluées en général que prédit. En d'autres termes, nous, les astrophysiciens, quand on regarde l'univers très ancien avec le JWST, on s'attend à voir des nouveaux-nés, des galaxies nouvelles-nées. Mais ce qu'on voit, ce sont plutôt des adolescents, relève Mme Nguyen Kwok-Wellet, qui est également chargée des communications pour le JWST. Si l'on présume que l'on connaît bien l'âge de l'univers, et d'après nos modèles de formation et d'évolution des galaxies, il n'y aurait pas eu assez de temps pour que ces très jeunes galaxies aient pu évoluer jusqu'à l'état où on les voit, poursuit-elle. Mais avec cette toute nouvelle découverte, on comprend en fait que cette galaxie, qui est très jeune, produit des étoiles à un taux beaucoup plus élevé qu'on l'aurait cru possible. Et elle nous indique que nos modèles d'évolution des galaxies ne sont pas exactement corrects pour le très jeune univers, car les galaxies semblent tout simplement plus efficaces à produire des étoiles et à construire leur masse. On voit une galaxie en poussée de croissance, et cela nous donne un indice sur comment toutes les galaxies adolescentes qu'on voit avec le JWST sont devenues aussi grosses, aussi rapidement. L'astrophysicienne précise que le télescope ALMA est très performant pour l'étude des poussières d'une galaxie. En l'occurrence, il a permis de voir que la galaxie Gamma 1 en contient énormément. Or, ce sont les étoiles qui expulsent toute cette poussière présente dans les galaxies. Et donc, le fait que la galaxie Gamma 1 soit très poussiéreuse nous indique qu'elle contient déjà beaucoup d'étoiles qui produisent de la poussière. Et le fait que cette poussière soit relativement chaude veut aussi dire qu'il y a beaucoup d'étoiles qui la réchauffent. Donc, la brillance et la température de la poussière laissent croire qu'il y a plein d'étoiles en formation, fait remarquer Mme Nguyen Quoc Ouellet. La galaxie Gamma 1 forme en effet des étoiles 180 fois plus rapidement que notre propre Voie lactée. Au cours de leur évolution, les galaxies ont des poussées de croissance. Et c'est à ce moment-là qu'on peut les appeler pouponnières d'étoiles ou usines à étoiles. Mais vient un moment où elles commencent à manquer de carburant et n'arrivent plus à en produire autant. Elles deviennent alors beaucoup plus tranquilles. À mesure qu'une galaxie évolue, elle devient trop âgée pour produire des étoiles. Notre galaxie à nous, par exemple, la Voie lactée, est beaucoup plus évoluée, beaucoup plus tranquille. Ce qui fait qu'elle ne produit que l'équivalent d'un soleil chaque année, alors que la galaxie Gamma 1 produit l'équivalent en masse de 180 soleils comme le nôtre par année. Elle produit peut-être quelques étoiles plus massives que notre Soleil et des centaines moins massives que le Soleil, par exemple. Mais si on fait la moyenne de toutes ces étoiles en termes de masse, c'est l'équivalent de 180 soleils, explique l'astrophysicienne. L'étude, qui est publiée dans Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, nous montre qu'on a peut-être sous-estimé la capacité des galaxies dans le jeune univers à produire des étoiles très rapidement. Donc, si avec le télescope ALMA et d'autres télescopes, on arrive à trouver d'autres pouponnières d'étoiles comme celle-ci, ça nous confirmera qu'en effet, l'univers très jeune était tout simplement rempli de ces galaxies en poussée de croissance, et ça expliquera ce qu'on observe avec le JWST. Cette étude nous met sur une piste prometteuse pour résoudre ce problème de la surabondance de galaxies très évoluées qu'on voit avec le JWST dans l'univers primitif, souligne Mme Nguyen Quoc Ouellet. C'était « Les galaxies de l'univers primitif, de véritables usines à étoiles », un texte de Pauline Gravel paru le 22 novembre 2025 dans Le Devoir.
« 30 nouvelles places au chaud pour des itinérants dans des habitations modulaires », un texte de Félix Pedneau, paru le 2 février 2026 dans Le Devoir. La mairesse de Montréal, ainsi que des membres du gouvernement provincial, ont inauguré lundi matin un second projet d'habitation modulaire pour les personnes en situation d'itinérance dans un de ces quartiers ville. La mairesse, Soraya Martinez-Ferrada, qui s'était prononcée en défaveur du projet lors de sa campagne électorale, juge qu'on peut faire mieux, notamment en trouvant des solutions moins coûteuses. « Je ne remets pas en question le projet, je remets en question le coût », a précisé la mairesse lors de son point de presse. Elle a insisté sur le fait que d'autres modèles d'habitation, comme les maisons de chambre ou les petites maisons, lui semblent plus dignes pour les personnes vulnérables. La ville évalue à 157 000 $ par chambre le prix de ce projet, qui pourra accueillir jusqu'à 30 personnes. En septembre, un premier projet avait été déployé sur le site de l'ancien hippodrome dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce. « On est dans des mesures de transition », a expliqué Mme Martinez-Ferrada. Elle souhaite d'abord régler le problème de personnes itinérantes en hiver, la ville ayant mis sur pied un plan d'urgence pour héberger le plus de personnes possible lors de grands froids, avant de gérer la crise dans son ensemble. Un milieu de transition. Les habitations modulaires gérées par l'organisme RAP Jeunesse, rue Action Prévention, située dans un de ses quartiers-villes, rue Louvain-Ouest, comportent 30 chambres, certaines doubles, pour accueillir des couples ou des personnes avec un animal, chacune munie d'un réfrigérateur et d'une trousse d'hygiène. Chaque passager, comme les surnomme Pamela Simard, directrice habitation à l'organisme RAP Jeunesse, recevra 2 repas surgelés gratuits par jour d'une ressource de sécurité alimentaire de l'arrondissement. Une cuisine ainsi qu'une salle commune ont été mises à la disposition des 30 usagers qui arriveront graduellement dès le 2 février. On a ouvert nos listes et, à compter de 24 heures, on a arrêté de prendre les noms parce que ça nous déchirait le cœur de devoir en refuser autant, explique Pamela Simard. 3 intervenants de suivi accompagneront les résidents sur place à toute heure. Le défi ici, ce sera de vivre en communauté, explique Fanny Hébert-Chassé, une intervenante rencontrée sur les lieux, puis de planifier activement avec eux s'ils veulent se trouver un logement, un emploi ou demander l'aide sociale. Pour plusieurs personnes, tout juste sorties de la rue, ces étapes représentent de véritables obstacles, selon elles. C'est beaucoup à entreprendre quand tu es juste content d'avoir un toit et un lit, ajoute Fanny Hébert-Chassé. D'autres solutions à l'avenir. Si on veut en faire plus avec les moyens financiers qu'on a, il faut revoir le modèle, a souligné la mairesse Soraya Martinez-Ferrada. Elle a cité comme exemple de logement de transition les petites maisons faites à Gatineau pour un coût moindre que les habitations modulaires, selon elle. Pour Pamela Simard, les habitations modulaires répondent à un besoin du quartier, même si la solution n'est pas parfaite. Dans 2 ans, ces habitations modulaires seront relocalisées dans Montréal-Nord. Elle souhaiterait qu'à l'avenir, il soit possible que les habitations, tout comme à Gatineau, puissent occuper le terrain pendant 10 ans. Cette courte durée ne leur permet pas d'offrir le meilleur suivi possible à certaines personnes en itinérance dans le quartier. On ne peut pas prendre des gens qui mettront plusieurs années à être capables de vivre en appartement, en fait. Ou pour des personnes qui veulent un HLM, on sait que les listes d'attente prennent plus d'un an, explique-t-elle. C'était 30 nouvelles places au chaud pour des itinérants dans des habitations modulaires, un texte de Félix Pedneau, paru le 2 février 2026 dans Le Devoir.